BFM Business. Midi, l'heure H.
Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H. On va parler, comme depuis hier, bien sûr, sur BFM Business, on va parler de ce jour de la tech, de cet écosystème avec hier les annonces d'Emmanuel Macron. On en parle avec vous, Olivier Mathieu, bonjour.
Bonjour Edwige.
Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de France Digital. Aujourd'hui, c'est votre journée. Et puis, vous êtes membre du jury du Next 40. On va voir ça dans un instant. On parlera d'électricité.
Et également président de The Camp. Okay.
Absolument. Ouais.
Pardon, excusez-moi. Et on va parler. Alors bon.
Pour les informations de la mi-journée, on va retrouver nos prochains invités qui seront ensuite Philippe Crouzet, le patron de Vallourec, et également François Brod pour RTE après les investissements qui ont été annoncés hier. Mais d'abord, les principaux titres de la mi-journée et bien sûr la une de l'actualité, c'est la Fed, la réserve fédérale américaine, qui rendra son verdict en fin de journée. Édition spéciale ce soir sur BFM Business à partir de 20h, puis vous retrouverez Tech & Co à 20h15. La Fed devrait baisser ses taux une deuxième fois cette année après une première baisse en juillet. La Banque centrale américaine, qui s'inquiétait déjà dès cet été des tensions commerciales et du ralentissement de la croissance mondiale, eh bien il faut maintenant bien sûr ajouter les très fortes tensions au Moyen-Orient après les attaques contre l'Arabie Saoudite. L'Iran justement, qui déclare que ces attaques sont, je cite, un avertissement lancé à Riyad. Tirez-en les leçons et considérez qu'il pourrait y avoir une guerre dans toute la région, ajoute le président iranien ce matin à l'attention de l'Arabie Saoudite et des États-Unis. L'Iran réaffirme dans une note officielle n'avoir joué aucun rôle dans ces attaques. Mike Pompeo est aujourd'hui en Arabie Saoudite pour rencontrer le prince héritier Mohammed Ben Salman et pour discuter de la réponse aux attaques. Emmanuel Macron recevra demain l'émir du Qatar. Sur le front du Brexit et deux jours après une nouvelle rencontre stérile avec Boris Johnson au Luxembourg, Jean-Claude Juncker réaffirme ce matin que le risque d'un Brexit sans accord est très réel. Il n'est pas sûr que nous réussirons à trouver des solutions, mais nous devons essayer, ajoute le président de la Commission. Michel Barnier en profite pour tacler le Premier ministre britannique, pour qui les contours d'un accord sont maintenant très clairs. Il ne s'agit pas de faire semblant de négocier, lui répond le négociateur européen. Et puis l'Espagne s'enlise dans la crise politique. Pedro Sanchez, vainqueur des dernières élections législatives en avril, eh bien n'est arrivé à trouver aucune solution pour former une coalition de gouvernement. Résultat, les Espagnols vont devoir retourner aux urnes pour la quatrième fois en quatre ans. Ce sera le 10 novembre. Dans l'actualité des entreprises, EDF annonce ce matin des problèmes de fabrication sur 6 réacteurs nucléaires en activité, dont l'un des réacteurs de Fessenheim. 6 réacteurs donc sont touchés par des anomalies de composants qui avaient été révélées la semaine dernière. EDF juge toutefois que ces réacteurs sont aptes au service et elle ne compte donc pas les fermer à ce stade. L'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, partage cet avis d'EDF, mais elle rendra son verdict définitif dans les prochaines semaines. Du côté du marché automobile, les immatriculations de voitures neuves ont reculé au mois d'août de 8,4%. Les ventes de PSA ont baissé de 5%, celles du groupe Renault ont même plongé de 23%. Volkswagen reste le numéro 1 du marché européen devant PSA et Renault. Depuis le début de l'année, le marché automobile européen est en baisse de 3,2%. Airbus, en revanche, est toujours aussi optimiste pour le marché de l'aviation. Le groupe estime que la flotte mondiale d'avions va plus que doubler dans les 20 prochaines années. Concrètement, ça veut dire l'arrivée dans les cieux et bien de 39 000 nouveaux avions et de 550 000 nouveaux pilotes. Airbus prévoit une croissance du trafic aérien de 4,3% par an. Et puis pour finir, l'État de New York décide à son tour d'interdire la vente de cigarettes électroniques aromatisées. C'est le deuxième État américain, après le Michigan, à bannir les cigarettes électroniques. Le Centre américain de contrôle des maladies affirme qu'elles sont responsables du décès de 7 personnes et de graves problèmes pulmonaires chez 380 adultes. BFM Business, il est midi 4. Le CAC 40 à la mi-journée est stable, hein, on gagne 0,13% à 5 622 points. L'euro-dollar, quant à lui, cède du terrain, on abandonne 0,24%. 1 euro s'échange pour 1,10,46 $.
Merci Thomas, et bien sûr on vous retrouve à 12h30, si ma voix le permet. Pas tout de suite, c'est la question du jour, c'est mettre 5 milliards sur la table, pourquoi faire pour la French Tech? Est-ce que c'est suffisant? On voit ça avec Olivier Mathieu.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Olivier Mathieu, merci d'être avec nous. Je vous ai à peine salué tout à l'heure. Vous êtes donc vice-président de France Digital et vous êtes président de The Camp. The Camp, on en dira un mot parce que c'est important. C'est vraiment un écosystème que vous avez créé à côté d'Aix-en-Provence où il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et puis, vous êtes évidemment fondateur de Price Ministère, devenu aujourd'hui Rakuten. Hier, vous étiez avec le président? Absolument. On vous a vu là, juste à gauche du président. Est-ce que vous avez été convaincu? Ce qui est dit, ce qui est mis sur la table est suffisant à votre avis?
Il y a un élan qui est incroyable, qui était déjà enclenché avant les annonces du président, parce qu'on relève un peu les compteurs. Chaque année, chaque semestre, on regarde combien d'argent sont investis dans les startups. Et là, on est sur une année record on a déjà dépassé sur un premier semestre les montants qui avaient été investis sur l'ensemble de l'année 2017. Donc 2019, ça va être une année record qui va probablement dépasser les 5 milliards d'euros. Et ce qu'a annoncé le président Macron, c'est qu'il allait inciter et mobiliser 5 milliards d'euros sur les 3 ans à venir, venant notamment des investisseurs dits institutionnels, donc banques et assurances, mettant en avant le fait que finalement aujourd'hui, les Français sont pas très contents des rendements sur leur assurance vie, des fonds en euros qui ont des rendements très très faibles. Donc l'idée de mettre 5 milliards d'euros, alors qu'on sait qu'il y a 1500 milliards d'euros qui sont logés dans l'épargne des Français sur les assurances vie, c'est finalement assez peu de risques que peuvent prendre ces assureurs, à condition d'adapter la réglementation un peu prudentielle et les inciter à mettre cet argent dans les fonds de capital risque ou dans les startups elles-mêmes.
Oui, comme vous dites, il faut quand même les règles prudentielles, elles sont là, elles ne sont pas fixées au niveau français, elles sont fixées au niveau européen et c'est très compliqué. Il n'y a pas de risque. En tous les cas, pour les épargnants, il y a toujours un risque d'action, il y a une sorte de méfiance, de défiance vis-à-vis des actions. Et notamment par rapport à des startups, on peut les comprendre.
L'univers des startups génère à la fois de l'excitation, c'est une aventure entrepreneuriale. Donc moi, je crois fortement que le grand public et que l'ensemble des analystes financiers, des milieux professionnels de l'investissement a intérêt et va s'intéresser à la création de valeur de ces nouveaux métiers, de ces nouvelles technologies, blockchain, intelligence artificielle, digital, numérique, mobilité, smartphone, etc. Toutes ces questions-là, elles sont fortes, elles créent de plus en plus d'emplois. Et la réalité, c'est qu'on ne parle pas uniquement d'indicateurs financiers, de mobiliser de l'argent, on parle vraiment des emplois de demain. Ça a été souligné à la fois par les ministres, par le président de la République. C'est pas seulement de l'argent dont on a besoin, c'est une forme de souveraineté qui nous permet de garder nos entreprises, de créer des emplois en France.
Olivier Matteau, la question qu'on peut se poser, c'est là, vous faites partie du jury, justement, c'était ce matin, sur le Next 40. On en parle beaucoup, on a révélé ici sur BFM Business un peu la liste. On en connaît certaines, il y en a d'autres qu'on connaît absolument pas, donc c'est bien, ça promet. Les critères de choix, ça a été basé sur quoi ?
Alors, le Next 40, c'est un petit peu une réflexion autour du CAC 40, évidemment. C'est-à-dire quelles seront les prochaines boîtes qui rentreront dans le CAC 40, sachant que la moyenne d'âge du CAC 40 est de plus de 100 ans et qu'il n'y a pas d'introduction en bourse de valeurs technologiques.
On parle des entreprises, on ne parle pas des dirigeants.
On parle des entreprises qui sont... Peut-être que parfois, ils sont trop âgés, mais en tout cas, moi, je ne jugerais pas ça. En tout cas, les start-upers sont plus jeunes, mais les start-ups surtout sont beaucoup plus jeunes, contrairement aux États-Unis où beaucoup des plus grandes capitalisations américaines sont nées dans la Silicon Valley et sont nées dans les années 90, donc beaucoup plus récentes. Alors, ce qu'a signalé Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, c'est qu'il n'y avait pas eu d'introduction en bourse technologique depuis la fin des années 90 en France. Donc, on a quand même besoin de montrer qu'on innove et qu'on n'a pas que des vieilles entreprises industrielles, même si elles sont très utiles. Et donc, les critères, c'est des critères de levée de fonds, parce que du coup, c'est des valorisations de la société, c'est des critères de chiffre d'affaires et c'est des critères de croissance de chiffre d'affaires.
Oui, mais alors, Olivier Matteau, vous êtes un bon témoin, vous, parce que vous êtes un petit peu des deux côtés. Vous avez créé Price Minister avec Pierre Kosciusko-Morizet et vous n'avez pas fait le choix de grandir, de vous introduire en bourse, et vous êtes fait racheter par le japonais, donc Rakuten. Donc vous voyez bien un peu les limites, peut-être, en tous les cas, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous avait conduit à cette décision, et aujourd'hui, pourquoi vous pensez qu'on peut prendre une décision différente lorsqu'on est un dirigeant d'entreprise ?
Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, alors parfois on reproche à certaines entreprises, c'est ce qu'on a fait avec Price Minister, d'avoir été revendu par leurs actionnaires à un groupe étranger, pour nous c'était des japonais, Rakuten, et il y a évidemment des groupes américains qui rachètent également des entreprises françaises. Je tiens d'abord à dire qu'une fois qu'une entreprise est vendue, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la vie de cette entreprise. Elle n'est pas tuée, elle crée des emplois en France.
Puisqu'on est dans cette logique d'avoir des entreprises françaises, des grandes entreprises françaises, votre exemple, il y en a, ce que je dis, il n'y a pas de culpabilité derrière ma question. Non, au contraire, c'est d'essayer de comprendre la logique aujourd'hui, parce que c'est là où vous pouvez être utile, puisque vous avez eu cette réflexion.
Ce qu'on essaie de faire, moi je suis également business angel, donc j'investis de l'argent aux côtés des fonds d'investissement dans des startups, et puis avec France Digital, on milite pour créer des champions français qui deviendront peut-être des licornes. Il y en a de plus en plus en France, donc les licornes, c'est des sociétés encore non cotées qui valent plus de 1 milliard de dollars. Mais pour y arriver, elles ont besoin d'être financées. Par exemple, si l'exemple de Price Minister est effectivement édifiant et intéressant, on n'avait pas forcément suffisamment de moyens pour rivaliser avec les grands géants de la Silicon Valley. Donc à un moment donné, nos actionnaires ont préféré nous revendre à un groupe qui investirait davantage, qui a été le cas avec Rakuten. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est que les entreprises françaises, d'abord, aillent plus vite à l'étranger. C'est ce que révèle le baromètre France Digital qu'on va révéler aujourd'hui avec EY. Elles vont plus vite à l'étranger. Et il y a de plus en plus de levées de fonds qui font plus de 50 millions d'euros. C'est-à-dire qu'elles ont les moyens de recruter, de lutter contre la concurrence internationale, notamment chinoise et américaine, qui sont aujourd'hui les plus grosses valeurs et les plus puissantes des entreprises technologiques.
Dans ce baromètre EY, vous allez révéler, mais là vous êtes là en direct avec nous, vous pouvez nous en donner les grandes lignes.
Oui, mais ce qu'on montre, c'est que d'abord, les entreprises sont de plus en plus internationales, qu'elles sont toujours en très très forte croissance, et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles créent des emplois en France, et pour plus de 92% des emplois qui sont des contrats à durée indéterminée, des CDI. Donc c'est pas du tout un milieu précaire, c'est au contraire un milieu qui crée les métiers d'avenir, avec de plus en plus de diversité par rapport au CAC 40, même si c'est encore insuffisant.
Oui, vous avez raison de dire 94% sont en CDI, parce qu'il y a toujours un côté assez vulnérable, un peu, je veux dire, pas sérieux presque. Et oui. Donc c'est important, il y a un message à mon avis, il y a une image à construire.
Bien sûr, je pense qu'on ne peut pas nier
génération.
Que l'entrepreneuriat, ça reste un métier risqué, bien entendu. Et d'ailleurs, quand on parle de fonds d'investissement, on parle de capital risque, hein, le mot risque est dans le terme. Donc forcément, il y a des entreprises qui vont parfois déposer le bilan et qui ne fonctionnent pas. Ça fait partie du jeu, il ne faut pas avoir peur de cet échec. Mais en moyenne, ce qu'on appelle cet écosystème, même si on utilisait peut-être un peu trop ce mot-là, et on ne sait plus très bien ce qu'il veut dire, mais globalement, l'ensemble, si vous voulez, du marché technologique, qui est en fait complètement transversal à l'économie française. Il y en a qui sont dans la finance, certains qui sont dans le tourisme, d'autres qui sont dans le commerce, il y en a dans le domaine, évidemment, du marketing et de la publicité, etc. Donc l'ensemble de ces secteurs-là grossit très très fortement et constitue les emplois de demain. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, quand on est des investisseurs importants comme les institutionnels, il faut diversifier son portefeuille et parier notamment sur la capacité des entreprises à devenir beaucoup plus robustes une fois qu'elles vont à l'international. Il ne faut pas se contenter du marché français, qui est en fait un marché de taille moyenne, voire modeste, ce qui parfois nous affaiblit. Donc il faut vraiment viser le monde. On dit parfois «
Oui, il faut avoir de l'ambition. »
Oui.
Vous dites, pardon ?
On dit « born global », c'est-à-dire être né global en pensant directement à l'international. Donc bien parler anglais, recruter des équipes internationales, donc attirer les talents. On a un grand problème d'attraction des talents. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Ça a été souligné hier à l'Elysée, ce matin, par Bruno Le Maire et Cédric O également à Bercy. On a besoin d'attirer des talents, donc de former des talents, de les valoriser également en leur donnant un accès au capital, en élargissant par exemple les plans d'action gratuites, en favorisant ce qu'on appelle aussi les BSPCE, qui sont des bons de souscription pour créateurs d'entreprises, et les étendre à des entreprises de plus en plus grandes pour intéresser au capital et à l'aventure entrepreneuriale l'ensemble des salariés.
Oui, ça c'est un point important. Qu'est-ce que vous pensez c'est de Euronext, hein, donc avec la Caisse des dépôts qui a créé un indice dédié aux PME tech coté à Paris qui va s'appeler l'Euronext Tech Croissance. Est-ce que ça va dans le bon sens ou...
Ça va clairement dans le bon sens, mais pour être honnête, on n'a pas le sentiment qu'on a encore réellement un Nasdaq européen.
Voilà.
On n'est pas encore assez ambitieux à ce niveau-là. C'est une question d'abord de est-ce qu'on a les bons analystes financiers, les gens qui connaissent bien les marchés,
la réponse est non.
Ceux qui mettent de l'argent, et est-ce qu'il y a de la liquidité ? Parce que les entreprises tech françaises sont encore de taille modeste quand elles sont celles qui sont cotées en bourse, et du même coup, il n'y a pas beaucoup d'échanges tous les jours, donc assez peu de liquidité. Donc il faut d'abord, évidemment, attirer les gestionnaires de fonds, les analystes financiers, et créer là un écosystème financier autour de la tech, comme il est très très dynamique à New York.
Oui. Sur les 5 milliards, il y avait un rapport qui avait été fait avant qui disait qu'il fallait grosso modo 20 milliards. Alors, je ne veux pas du tout dans un discours anxiogène, mais est-ce que c'est vrai que c'est 5 milliards ? Est-ce qu'il ne faudrait pas être encore plus ambitieux, justement ? Alors, ça vous paraît suffisant ?
Il y a un rapport qui a été remis à Edouard Philippe, le rapport Tibi cet été, et qui dit qu'effectivement, on a besoin de fonds d'investissement qui soient des fonds d'investissement de plus de 1 milliard, qui puissent donc investir des tickets de plus de 100 millions d'euros.
Oui.
100 millions d'euros, c'est un petit peu en ce moment la barrière à dépasser pour devenir vraiment un géant international, recruter énormément, investir dans la technologie, conquérir le monde, etc. C'est pas des 20 mots, parce que c'est du coup de la vraie économie.
Il y a Miro qui a levé 205 millions d'euros, Doctolib 150 millions d'euros. Je parle des levées de fonds cette année, hein, c'est important. Puis il y a eu Insect 110 millions, Mankmano 110 millions et Win 72 millions.
Voilà.
Il y a quand même eu des bonnes.
Il y a beaucoup de levées de fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros.
Oui.
Nous, quand on a levé des fonds avec PriceSmithers, ce que vous le citez, ça fait un peu vieille économie presque aujourd'hui, c'était en 2005. On levait 7 millions d'euros et c'était pas mal en fait dans l'écosystème. Donc vous voyez, on a fait x10 en dimension, en ambition. Donc ça, c'est génial. Alors après, est-ce que 5 milliards c'est suffisant ? 5 milliards sur 3 ans, ça correspond quand même à l'ensemble de l'année 2019 en investissement dans les startups. Donc c'est quand même beaucoup, c'est pas négligeable. Si on regarde là où on en est, on a une année record. On va doubler ce montant étalé sur 3 ans, en plus de ce qui est déjà aujourd'hui sous gestion dans les fonds d'investissement.
On en a parlé hier avec Frédéric Mazzella, évidemment, avec qui vous présidez France Digital, sur la question des talents. Aujourd'hui, dans le cadre de votre France Digital Day, en l'occurrence, il y a le Talent Awards. Les talents, c'est vraiment un frein absolument...
C'est le frein principal qui est cité par toutes les startups petites et grosses. On a plus de 1200 startups qui sont membres de France Digital. capital, mais les plus grosses, elles insistent davantage là-dessus que sur l'accès au capital. Bien sûr, il y a besoin d'argent, et nous, on a toujours eu cette ADN très financier avec France Digital, parce que c'était la faiblesse il y a quelques années. Maintenant, aujourd'hui, on doit changer un petit peu notre centre de gravité et considérer que c'est vraiment le recrutement des talents qui devient la ressource rare. Recruter des talents, ça veut dire les former en France, donc multiplier ou agrandir les promotions des écoles d'ingénieurs qui sont toutes petites par rapport aux universités américaines, et ça, Bruno Le Maire l'a signalé, mais également attirer les talents étrangers. Il faut que les très bons développeurs chinois, indiens, américains aient envie de venir à Paris. Et je dois dire que peut-être le Brexit est une opportunité, même si c'est un peu triste de le dire comme ça, mais c'est une opportunité aussi pour faire de la place de Paris une attraction forte au niveau des talents, parce qu'on a aussi un art de vivre à la française qui attire énormément les meilleurs développeurs qui viennent de Californie.
Un petit pari sur ce Next 40 que vous avez fabriqué, concocté ce matin, Olivier Mathiot. Il y en aura combien, je ne sais pas, dans 10 ans au CAC 40?
Alors, je pense qu'il peut réellement y en avoir deux ou trois qui vont rentrer dans le CAC 40 dans les prochaines années, parce que là, les croissances s'accélèrent. Mais il y en a aussi qui vont sortir de ce Next 40, parce que la réalité, c'est que voilà, il y a des risques. Ça ne veut pas dire qu'on disparaît, mais il y a des nouveaux qui vont se bousculer, et les cycles de croissance sont beaucoup plus forts, parce qu'on parle de croissance d'entreprises qui doublent tous les 3 ans. Donc beaucoup plus rapide que la moyenne du CAC 40.
Et c'est là, on voit les impacts managériaux énormes. Merci beaucoup Olivier Mathiot d'avoir été avec nous. J'en ai retrouvé ma voix du coup, vice-président de France Digital. Et dans un instant, on sera plutôt vers... transition, l'ancien monde, nouveau monde. C'est François Brotte, le président du directoire de RTE, le réseau de transport d'électricité. Il demande 33 milliards pour renouveler son réseau d'électricité entre l'ancien monde et le nouveau monde vers les énergies renouvelables. A tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est François Brotte. Il est président du directoire de RTE, le réseau de transport d'électricité. François Brotte, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser, puisque hier, c'est assez simple. Vous avez dit, j'ai besoin de 33 milliards pour moderniser le réseau d'électricité français d'ici 2035. Bien sûr, vous allez nous expliquer pourquoi ce chiffre. Peut-être un mot quand même sur ce qu'on a appris ce matin. EDF qui a annoncé que 6 réacteurs nucléaires, je cite, en exploitation en France, étaient concernés par des problèmes de fabrication de certains composants qui ont été découverts la semaine dernière, mais qu'il était jugé pour l'instant apte à continuer à produire de l'électricité. Vous, est-ce que ça vous inquiète, François Brotte? Est-ce que vous vous dites, ok, mais par exemple cet hiver, comment on va faire pour fournir l'électricité aux Français?
Alors d'abord, je dirais que EDF est un opérateur qui produit, comme beaucoup d'autres, nous sommes indépendants d'EDF.
Vous avez besoin de l'électricité d'EDF.
Nous livrerons à la mi du mois de novembre, comme nous le faisons, une copie qui s'appelle le passage de l'hiver. C'est-à-dire qu'on va expliquer comment, compte tenu des informations dont on dispose sur la disponibilité du parc de production, on passera l'hiver, avec quelles ressources. Je ne sais pas vous le dire là, à l'heure qu'il est, mais bien évidemment, chaque fois que sur la production, des événements sont annoncés qui peuvent potentiellement diminuer l'importance, ça nous met en questionnement et ça nous oblige à apporter les solutions qui...
C'est quoi vos solutions? Parce que là, ça serait 6 réacteurs, même si pour l'instant, la SN considère qu'il n'y a pas de risque, EDF non plus.
D'abord, tout dépend quelle météo il fera. Et ça, on ne sait pas vraiment le prévoir à l'avance, s'il fait très froid, s'il fait moins froid. On a des solutions du type les interconnexions, on a l'équivalent de ce que produisent 15 réacteurs nucléaires, en échange possible avec nos voisins. On a une montée en puissance du renouvelable qui est réelle aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas toujours au rendez-vous. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'éolien.
Ah bah là, il y a des journées au mois d'août, c'est ça, puis il n'y avait plus aucune éolienne qui fonctionnait.
C'est vrai, il y a des journées, on a battu des records où le parc éolien, il a quasiment produit 90%. Ouais. Non, mais l'inverse aussi. Mmh. Ça monte en puissance. On a toute une série de solutions complémentaires qui existent encore, le thermique notamment. Donc, on n'est pas
pour vous, là, que ça. Pas d'inquiétude au jour d'aujourd'hui.
Je ne sais pas répondre à la place de mes experts avant le milieu du mois de novembre, mais on n'est pas dans l'affolement général.
Oui. Non, mais c'est important de le souligner, malgré tout. La question qu'on peut se poser, puisque c'est... on sait que, dans le cadre de la politique énergétique souhaitée par le président, donc il y a fermeture du premier réacteur de Fessenheim en 2020, le deuxième à la fin de son mandat, fermeture des centrales à charbon. Si en plus il y a des risques sur le parc nucléaire français, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous allez faire en tant que président de RTE?
Faire notre métier pour que le réseau soit toujours équilibré, qu'il y ait autant d'électrons qui rentrent que d'électrons qui sortent. D'abord, le premier point qu'il ne faut pas oublier dans le raisonnement, c'est que la consommation de l'électricité est plutôt stable. Donc ce qui est une bonne nouvelle, parce que malgré des usages très énergivores comme l'informatique, les équipements ménagers, aujourd'hui diminuent en consommation. Les ampoules LED consomment moins, tout ça c'est très sensible. Donc on a une ligne de consommation qui est stable. Donc c'est déjà un défi qu'on n'a pas à relever, celui-là. Après, en effet, on s'adosse à des solutions nouvelles et complémentaires qui n'existaient pas hier. J'évoquais les interconnexions à l'instant. On est en train d'en finir une avec l'Italie, très importante. On en a 50, nous, avec les autres pays. On a en gros 3000 mégawatts sous le pied parce que le réseau est résilient grâce à son maillage européen. On a des solutions, on a appelé par exemple l'interruptibilité d'effacement de consommation quand on est vraiment en situation de crise. Donc on a une palette aujourd'hui de solutions lorsqu'on est un peu en difficulté sur l'approvisionnement.
Oui, mais jusqu'à présent, la France était plutôt exportatrice d'électricité. Là,
Je vous rassure, on est encore très exportateur. D'accord. La question pour nous se pose en gros 10 fois par an. Voilà. Oui. Quand il fait grand froid. Le reste du temps, on est très exportateur.
Est-ce que le mix énergétique, il faut pas un peu le décaler, justement. Après, on viendra sur les investissements nécessaires que vous demandez.
Il faut le coordonner pour qu'effectivement, on prenne pas de risques. Je souhaite d'ailleurs, et c'est un appel que j'ai lancé avec mes collègues CIO des autres gestionnaires de réseaux de transport européens, qu'il y ait une coordination internationale. Parce que quand chacun se dégrée de moyens de production en même temps dans les différents pays, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, ça peut devenir compliqué. Donc il faut qu'on se parle entre nous. Heureusement, on n'a pas les mêmes modes de consommation. La pointe de consommation en France n'est pas à la même heure qu'en Allemagne, par exemple. Ça tombe bien, parce que du coup, on peut se dépanner. Donc tout ça, c'est très important. Après, effectivement, le ministre de l'Environnement et de l'Énergie nous avait posé la question de savoir si 2022 était jouable.
Oui, si c'était réaliste.
La fermeture des centrales à charbon. On a posé un certain nombre de conditions. On a dit, dans ces conditions, c'est jouable. Dans ces conditions, ça l'est un petit peu moins. Donc, cette feuille de route, elle est sur la table. La PPE, qui va être officialisée dans les semaines et les mois qui viennent, elle est très dans la prise en compte de ces éléments-là. La loi énergie qui a été votée, il y a un agenda très raisonnable qui a été adopté pour qu'effectivement on puisse à la fois faire ce que le président de la République souhaite et en même temps garder du confort électrique pour l'ensemble de nos concitoyens.
Oui, donc on voit que la fermeture des centrales à charbon, c'est acquis sur le principe, sur le papier, si vous voulez, mais le timing peut être décalé.
Honnêtement, les échéances qui ont été données dans le crash test qu'on a fourni montrent qu'on sait tenir le planning qui a été indiqué. On pourrait être tout à fait en conformité avec les éléments qui portent sur ce point du thermique dans la loi énergie qui va être promulguée dans les jours qui viennent.
Oui, d'accord. Donc pour l'instant, vous avez l'impression qu'on est dans une politique énergétique, puisque après tout, vous la pilotez presque au même titre que le patron de l'EDF, j'ai envie de dire, ou du ministre de l'écologie. Est-ce que vous pensez que c'est tenable? Voilà.
Moi, je pense qu'il faut être volontariste sur les objectifs qu'on se donne, sinon on ne le fait jamais.
Oui.
Bon. Après, sur est-ce que c'est tenable ou pas pour avoir le même confort d'électricité, oui, à condition qu'on garde l'efficacité énergétique, c'est-à-dire que la consommation n'augmente pas, c'est le point sûrement le plus important, parce que c'est celui qui nous met en danger. Oui, aussi, parce qu'il faut qu'on travaille sur comment limer la pointe de consommation sur le coup de 19h le soir et la pointe du matin. Et on y travaille, il y a des solutions techniques qui doivent arriver prochainement et qui nous permettront d'être assez confortables, puisqu'en réalité, on a énormément d'électricité dans ce pays, même avec ce que vous évoquiez à l'instant, simplement, quand il fait grand froid et à certaines heures de la journée, c'est un peu compliqué. Donc il faut travailler sur ces objets-là et on va trouver des solutions.
Et une solution, juste pour avoir une idée, une solution, ça pourrait être quoi ?
Par exemple, quand le 10 janvier dernier, on a été dans une situation de baisse dangereuse de la fréquence du réseau européen, la France a déclenché, nous, RTE, un automate qui a dit il faut couper tout de suite des consommateurs industriels importants. Ils sont payés pour être coupés de temps en temps. On a, comme ça, dégagé 1500 watts du réseau. Donc du coup, on a retrouvé l'équilibre.
D'accord.
On peut, au niveau des ménages domestiques, avoir des solutions d'effacement aussi de consommation. Si vous arrêtez votre réfrigérateur ou votre congélateur ne serait-ce que 5 ou 10 minutes, ça pose aucun problème aux victuailles qui sont à l'intérieur. Donc vous voyez, il faut aussi réfléchir à mieux consommer, moins consommer, plutôt que plus produire.
Oui. Il y a encore un autre aspect dont je n'ai pas encore parlé, c'est le problème de la sécheresse avec des barrages hydrauliques. Est-ce que là, ça a un impact sur la consommation d'électricité, forcément, puisque ils sont pas au niveau, les barrages, puis en plus, ils sont tellement pas au niveau que, parfois, ça pose un problème de refroidissement des centrales nucléaires.
Vous avez raison, il y a 3 ans, je crois, on a eu moins 30% de production hydraulique parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Donc on est habitué à ces cycles.
On va voir les conséquences.
On est habitué à des cycles quand il y a moins de vent, quand il y a moins de soleil, quand il y a moins d'eau. Effectivement, ça fait modifier le comportement de ces productions. Mais heureusement, on ne mise pas toujours sur la même production. Donc comme tous les problèmes n'arrivent pas en même temps, on s'en sort toujours.
Oui. Donc pour vous, il n'y a pas d'inquiétude particulière non plus.
Il y a de la vigilance. Il y a de la vigilance, oui.
Alors 33 milliards, ça c'est justement pour répondre à tout ce qu'on vient de mettre sur la table, hein, François Brod, c'est du style, il faut bien adapter le réseau à ce nouveau mix énergétique.
Exactement. Le réseau, d'abord, c'est pas seulement une infrastructure ou un squelette. J'ai pris l'image de l'athlète de haut niveau qui avant faisait du triathlon, nucléaire, hydraulique et thermique. Maintenant, il fait du décathlon parce qu'il y a plein d'énergies nouvelles, plein de consommateurs nouveaux. Et donc, il doit avoir une compréhension de ses productions, de leur comportement parfois un peu erratique, qui fait qu'à tout moment, on garde l'équilibre. Et donc, on doit avoir un athlète qui a de l'intelligence, qui a de la force et de la puissance, bien sûr, mais aussi de l'intelligence. Et donc, la rénovation de notre réseau, il a en moyenne 50 ans. C'est pas très vieux, mais on a aussi des lignes qu'on s'entend. Et donc, on a besoin de modifier, de changer, de réhabiliter. Comment sont dépensés ces 33 milliards? Il y a 13 milliards pour l'adaptation du réseau, il y a 8 milliards pour ce qui est purement du renouvellement, il y a 3 milliards sur le numérique, 7 milliards sur les raccordements offshore. C'est un nouveau sport, si je puis dire.
7 milliards,
hein. Oui, parce qu'un raccordement d'une plateforme...
Pour combien d'éoliennes?
Tous les parcs qui sont prévus sur la période. Si je vous donne l'exemple de Dunkerque, là on va commencer les travaux bientôt, c'est quelque chose qui coûte 360 millions, le raccordement d'un parc avec sa plateforme. Donc forcément, oui, mais au bout du bout, vous avez quand même là ces 600 mégawatts, c'est pas rien. Mmh. En plus, la productivité de l'éolien offshore est très importante, puisque les experts disent que ça donne de l'ordre de 45% du temps de l'électricité, ce qui est très important, pour 20% plutôt sur l'éolien terrestre. Donc il faut le faire, parce que c'est des vraies solutions alternatives qui peuvent nourrir le réseau électrique de façon assez durable. Donc, voilà ce que représente cet investissement. Après, c'est ce que ces 33 milliards, c'est des milliards de dépenses en plus dans le porte-monnaie des Français. Ça peut être ça, votre question.
C'est la question d'après, parce qu'on dit que c'est 1 euro, en l'occurrence, par mois, sur notre facture.
En gros, à la sortie, ça sera de l'ordre. Mais à partir de 2025, de 10 euros par an. Voilà. Donc, alors, pourquoi on en arrive là? D'abord, parce que 33 milliards, il y a 20 milliards qu'on dépense déjà. Bon, parce que c'est pas complètement nouveau. On a additionné tout ce qu'on devrait mettre.
Ah oui, d'accord, vous avez fait un peu comme les manips budgétaires, là, François Breton.
C'est pas une manip. On est transparent sur ce dont il y a besoin dans les 15 ans qui viennent. Mais il se trouve que sur ces 33, on en dépense déjà naturellement 20. On en a 7 qui vont être réservés à l'offshore, qui jusqu'à présent étaient financés par la taxe qu'on paye dans le cadre du tarif, qui maintenant va être financé par notre tarif à nous. C'est juste un transfert. Mm-hmm. Donc, c'est pas du plus, si vous voulez. Donc, je suis déjà à 27 qu'il faut effacer les 33. Il reste un certain nombre de milliards, dont les trois quarts vont être payés par les producteurs, puisque quand un producteur se raccorde, il paye pour se raccorder. Donc, en gros, le delta qui nous concerne, il est de l'ordre d'un milliard sur 15 ans, et plutôt à partir de 2025. C'est pour ça qu'on arrive à quelque chose qui va tourner autour de 10 euros par an pour une famille française.
Et ça dépend de qui? Ça dépend de la facture d'électricité?
C'est dans la facture d'électricité,
oui,
alors évidemment.
Qui va vous dire, si vous demandez 33 alors, milliards, vous allez les avoir?
C'est une proposition, puisque demain, je passe devant la Commission de Régulation de l'Énergie.
Absolument.
Qui a la haute main sur les décisions tarifaires.
Oui, tout à fait.
Et donc, on va lui expliquer en toute transparence comment on fait ces calculs. Ils vont nous questionner, nous challenger.
Et c'est pas pour rien que vous avez sorti ce chiffre hier, notamment, François Brod.
Oui, parce que c'était le rendez-vous qu'on avait. On doit, et c'est la directive européenne et la loi qui nous l'impose, fournir au moins tous les deux ans un schéma décennal du réseau.
François Brottmanière, le rendez-vous est pris là pour la pause hiver, donc en mois de novembre, vous reviendrez nous voir pour nous expliquer comment on va
avec
être chauffé ou pas chauffé cet hiver. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, on parlera d'une autre énergie, l'énergie pétrolière. Notre invité, c'est Philippe Crouzet, il est président du directoire de Vallourec. Hier, il a annoncé qu'il allait passer la main en 2020. Il nous dira pourquoi, comment et qu'est-ce qui va se passer. Mais pour l'instant, c'est l'info avec Thomas Asportas.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, Philippe Crouzet, président du directoire de Vallourec. Philippe Crouzet, merci d'être avec nous. Vous avez annoncé hier que vous alliez passer la main, en l'occurrence en mars 2020, mais en tous les cas, vous avez donné le nom de votre successeur, en l'occurrence Édouard Guinotte, 48 ans, vous me disiez à l'instant, candidat en interne. Mm-hmm. Comment s'est fait ce processus justement de succession?
Le conseil de surveillance de Vallourec, comme je pense tous les organes de gouvernance, de toute façon, en permanence, évalue les potentiels de succession en cas d'accident ou d'empêchement de la direction. Donc, à l'occasion de ce travail qui est un travail continu, J'ai fait savoir que je ne souhaitais pas faire un quatrième mandat. J'aurais fait 11 ans à la tête de Vallourec et je pense que le dernier mandat compte double. Donc, le conseil a mis en place un processus très structuré d'évaluation de candidats internes et de candidats externes, au terme duquel il a choisi Édouard.
Candidat interne, est-ce que ça veut dire, parce que certains actionnaires, vous avez bien vu comme moi, commencent à dire, mais le prolongement de la stratégie de Philippe Crouzet, vous étiez plutôt favorable à ce choix pour qu'il continue ce que vous avez fait, parce qu'on va revenir effectivement sur le dernier mandat qui n'a pas été de tout repos.
Oui, alors c'est pas nécessairement pour faire la même chose, d'autant plus que ce que j'ai été amené à faire, en particulier ces dernières années, c'est vraiment une restructuration qui est faite une fois. On a très profondément redessiné l'empreinte industrielle de Saint-Gobain dans le monde. C'est fait, c'est derrière nous pour l'essentiel. Donc l'élément important, c'est qu'il y a maintenant une nouvelle étape de développement qui nécessite des qualités, des compétences qui effectivement existent en interne. Là, la continuité, la connaissance des métiers, des marchés est extrêmement importante. La stratégie, sera évidemment différente, l'environnement va changer. L'important, c'est surtout qu'on passe à une phase qui est la phase de développement commercial, je dirais même d'agressivité commerciale, et dont témoignent d'ailleurs les succès récents que nous avons rencontrés au Moyen-Orient. Ça veut dire que la phase de travail sur... Et c'est un très très gros contrat, il n'y en a pas beaucoup comme ça dans ce secteur. Et ce que veut dire ce contrat, c'est que précisément la phase de reconquête de la compétitivité s'achève. Donc c'est vraiment le bon moment pour passer le relais à une nouvelle génération et aussi à une équipe qui est bien préparée à ça, puisqu'elle connaît les produits, les marchés, les clients.
Question plus personnelle, lorsqu'on a connu le dernier mandat comme celui que vous avez connu, Philippe Crouzet, qui a été difficile, on en sort lessivé et rinté, donc on... Voilà.
Vous le savez peut-être, mais je suis assez résistant et endurant, je pratique des sports d'endurance, donc non, je sors pas fatigué, mais en revanche, parfaitement conscient que dans la phase nouvelle qui commence, qui est une phase de développement, il faut avoir du temps, une perspective de temps. Ma perspective de temps était nécessairement trop courte. Il y a de toute façon une limite d'âge à 65 ans à Vallourec. Donc ce que j'ai dit...
J'aurais pu le faire jusqu'à 70 ans, comme beaucoup de chefs d'entreprise.
Et je suis contre. Je pense d'ailleurs que le conseil de surveillance n'aurait pas varié. Quand il y a des règles, c'est pour les appliquer, c'est pas pour faire des exceptions. Donc ma perspective de temps n'était pas suffisante pour mener le développement à l'orée d'une nouvelle phase. Et je crois que c'est le conseil de surveillance a bien agi en choisissant quelqu'un qui aura cette perspective de temps avec l'équipe qui est derrière, bien sûr.
Avec, comme vous l'avez souligné à l'instant, un contexte pétrolier qui va peut-être changer. Est-ce que vous êtes aussi inquiet qu'un Patrick Pouyanné, le président de Total, qui a donc dit qu'il fallait s'attendre sans doute à des choses assez violentes. Il y a le Rouhani, l'Iranien, qui dit que l'attaque contre les infrastructures pétrolières saoudiennes est un avertissement, donc ça veut dire peut-être qu'il y aura encore d'autres choses. Est-ce que vous aussi, vous êtes inquiet? Parce qu'on va rappeler que Vallourec, vous êtes le leader mondial de tout ce qui est solutions tubulaires pour l'industrie pétrolière.
Alors, on est nécessairement inquiet au vu de ce qui vient de se passer, qui est sans précédent, qui est extrêmement grave, indiscutablement. Je ne m'attarderai pas sur le terrain politique. Je pense que dans les jours qui suivent ce genre d'événement, il y a aussi beaucoup de gesticulations, de postures. Mais en raisonnant simplement sur le métier lui-même, c'est clair que l'Arabie Saoudite, non seulement est le plus gros, pratiquement le plus gros producteur mondial de pétrole, puisque les États-Unis viennent de passer devant il y a peu de temps, mais c'est surtout le seul pays au monde où il y a une réserve de capacité supplémentaire qui peut être mobilisée en cas de besoin. Donc c'est clair que la déstabilisation, si ça devait être le cas, de l'Arabie Saoudite, serait très grave. Maintenant, on constate aussi qu'ils viennent d'annoncer, le ministère du Royaume vient d'annoncer qu'ils retrouveraient la capacité de production dans quelques semaines, alors qu'on avait parlé de plusieurs mois d'arrêt.
Il faut dire qu'il y a un gros enjeu avec l'introduction en bourse d'Aramco.
Voilà, mais enfin, ça veut dire qu'au moins industriellement et techniquement, ils sont capables de le faire vite. Et ça n'est d'ailleurs pas complètement surprenant compte tenu du type d'exploitation. On n'est pas dans l'offshore, on est essentiellement dans l'exploitation onshore. Pour moi, il y a quand même beaucoup d'incertitudes encore, et là je reste sur le terrain strictement industriel. D'abord, et c'est pas indifférent, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé à ce jour. C'est pas indifférent parce qu'on ne sait pas quel type de mesures de protection ils vont pouvoir mettre en œuvre. Est-ce qu'ils vont pouvoir garantir une meilleure sécurité de leur champ à l'avenir ou pas? Ce qui est certain, à mon avis, c'est que le prix du pétrole va désormais intégrer une prime de risque. Donc, le prix du pétrole va monter. Jusqu'où, c'est difficile de dire. Si ça reste une augmentation mesurée, Ça n'entraînera pas de conséquences graves sur la croissance mondiale.
Si ça devait qu'appelez-vous être... mesurer 5 centimes, c'est mesuré, c'est pas mesuré?
Alors nous, on raisonne en dollars.
Oui, en dollars.
Je dirais 5 à 10 dollars, ça ne déstabilisera pas le monde
du
pétrole et ça ne provoquera pas une récession mondiale. Maintenant, si ça devait être plus que ça, c'est-à-dire si l'ensemble des marchés n'était pas remis en confiance par l'analyse de ce qui s'est passé et des mesures pour éviter que ça se reproduise, là, effectivement, on peut partir, encore une fois, sur le strict domaine industriel, le prix du baril, indépendamment du contexte militaire et politique. Là, on peut partir vers quelque chose de plus compliqué.
Oui. Ouais. Plus compliqué, ça mène à quoi? Donc, un choc pétrolier, c'est ça que vous appelez...
Voilà, le risque, c'est ça. Et on est déjà sur une économie mondiale qui est affaiblie, fragile. L'économie réelle commence à donner des signes de ralentissement, et en particulier tout ce qui est manufacturing, et donc le commerce international. Donc un coup de plus, effectivement, venant du monde du pétrole, pourrait être dangereux. Oui.
Ouais. Est-ce que vous pensez que, par exemple, parce que évidemment, il y a certains qui commencent à dire, que, notamment en France, qu'il faudrait abaisser les taxes sur les carburants, parce qu'à la limite, les taxes qu'on verse sont plus élevées que l'augmentation du prix du carburant.
Plus,
est-ce que ça vous paraît envisageable? Enfin, en tout cas, vous appelez le gouvernement à le faire, ou vous restez...
Je crois qu'il faut d'abord rester calme, attendre de voir si et dans quelles conditions l'Arabie Saoudite rétablit sa production, à quelle vitesse elle le fait, est-ce que c'est en préservant sur ses réserves ou d'une façon naturelle, ensuite voir où se positionne la prime de risque, et ensuite seulement, je pense que les gouvernements prendront des décisions. Rien ne doit être fait dans la précipitation. Il y a beaucoup trop d'inconnus encore sur ce qui s'est passé et les mesures qui doivent être mises en œuvre.
Est-ce que la bonne réaction était celle de Donald Trump en disant, d'abord, vous l'avez rappelé, maintenant le premier producteur, les États-Unis, et deuxièmement, en disant les réserves stratégiques, elles sont énormes, donc il n'y a pas tellement de risques parce qu'on met tout de suite en service, si nécessaire, les réserves stratégiques.
Oui. Les premières réserves stratégiques, c'est d'abord celles de l'Arabie Saoudite, qui sont importantes et qui ne sont pas toutes situées en Arabie Saoudite, je le rappelle. Je pense que ça, c'est la bonne réponse à l'incident à court terme. C'est-à-dire la diminution de pratiquement de moitié, même d'un peu plus de moitié, si ça, on a bien compris, de la production saoudienne. Maintenant, encore une fois, si les équilibres devaient se situer à un niveau différent, si, par exemple, l'Arabie Saoudite n'était pas capable de revenir durablement à sa capacité de production antérieure, là, on serait dans une situation plus compliquée. Les États-Unis ne peuvent pas prendre le relais. Il n'y a pas de réserve de capacité significative aujourd'hui aux États-Unis. Les seuls pays où il y a des réserves de capacité, c'est d'abord et de très loin l'Arabie Saoudite, après les pays en guerre, style Libye, et puis l'Iran, puisque l'Iran, aujourd'hui, n'exporte pratiquement plus de pétrole. En moins d'un an, l'Iran est passé d'une capacité d'exportation d'auprès de 3 millions de barils à 200 000 barils en août dernier. Donc l'Iran a disparu du marché international du pétrole. Donc paradoxalement, la réserve de pétrole pour faire baisser une éventuelle flambée des prix, elle est en Iran.
Oui, c'est là où ça devient compliqué sur le plan géopolitique, en l'occurrence. Ça veut dire que nos économies, enfin l'économie mondiale, elle dépend encore énormément, justement, du pétrole.
Oui. Oui, bien sûr.
Malgré toutes nos gesticulations sur les énergies renouvelables, on est d'une fragilité totale, d'une exposition totale par rapport à cette ressource.
Et pour longtemps encore. Encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste
fait. C'est un constat.
On ne sait pas remplacer le pétrole ou le gaz, d'ailleurs, vite, dans un grand nombre d'applications, qu'il s'agisse du chauffage, donc l'habitat, le transport et la pétrochimie. Non, l'économie mondiale, clairement, elle est encore dépendante pour très longtemps du pétrole et d'une façon croissante du gaz.
J'ai envie de dire tant mieux pour vous, en l'occurrence, peut-être pour ça que vous faites cette analyse, pour Vallourec, justement. Vous laissez Vallourec dans quel état? Parce que on a suivi ici, vous êtes venu ici nous en parler, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, avec des doutes aussi sur peut-être la stratégie que vous avez conduite aux États-Unis, au Brésil. Vous avez la restructuration, vous avez conduite, maintenant vous nous dites Vallourec repart sur de bonnes rails. Dans quel état vous laissez les clés à votre successeur?
Écoutez, d'abord un groupe profondément transformé. Il y a 10-11 ans, c'était un groupe qui était essentiellement à base de production européenne, donc extrêmement dangereux compte tenu des coûts européens. Maintenant, c'est un groupe qui est reconfiguré. L'Europe, c'est 20 à 25% des capacités. Et là, les investissements que nous avons faits aux États-Unis et au Brésil nous ont sortis de la crise et vont nous porter dans les années qui viennent, et en particulier le Brésil.
Y compris le Brésil.
Surtout le Brésil. Oui. Dans les années qui viennent, le pays où il y aura le plus d'investissements en offshore et plus simplement de Petrobras, maintenant de tout un tas d'autres opérateurs, que ce soit Total, Shell, Exxon maintenant vient d'arriver aussi, et tous les grands opérateurs sont intéressés par le Brésil parce que c'est là qui est le pétrole le plus productif en offshore. Et c'est leur spécialité. Donc, cette reconfiguration de l'empreinte industrielle de Vallourec, elle est fondamentale et c'est ça qui garantit son futur. Et on commence à en voir les premiers signes. Notre compétitivité oui. s'est améliorée et nous reprenons le chemin de la croissance.
Mais est-ce que justement, je recevais Isabelle Cochet, là, il y a 8 jours, après la directrice générale d'Engie, qui m'expliquait que le Brésil, bon, pour l'instant, ça n'avait pas de conséquences. C'est qu'en tension commerciale, notamment entre la France et le Brésil, avec les États-Unis, avec l'Europe, est-ce que vous voyez un impact sur votre activité au Brésil ?
Non, aucun impact.
Aucun impact ?
Oui, il y a une vraie déconnexion entre le monde économique et les déclarations que je ne commenterai pas du président brésilien, mais dont je peux vous dire que tous mes interlocuteurs brésiliens ne sont pas très fiers.
Quand est-ce que votre investissement sera rentable au Brésil ?
Mais il l'est.
Il l'est déjà ?
Il l'est, oui, oui. Il l'est tout à fait. Tous nos investissements sont rentables. Ce qui est vrai, vous y avez fait référence, c'est que la restructuration européenne, qui a été extrêmement lourde, hein, puisque nous avons divisé nos capacités par deux, et donc réduit nos effectifs par deux, restructuré profondément, n'est pas complètement achevée, elle s'achève en Allemagne. Donc je laisserai à mon successeur cette dernière tâche de tout à fait finaliser la restructuration allemande, mais toutes nos autres opérations sont redevenues rentables.
Oui, et ce n'est pas un flux de trésorerie qui reste négatif ?
Non, il a été positif au deuxième trimestre, ce que personne n'attendait, et nous avons bien l'intention de rester sur cette trajectoire
Et il le sera pour le troisième, voire sur l'année.
J'y compte bien. Oui. En tout cas, nous travaillons dans cette direction.
Les États-Unis, la construction d'une grosse usine, on s'en souvient, avec l'inauguration du temps de Barack Obama, donc c'était quand même le grand événement. L'investissement, il reste aussi nécessaire que le montant des investissements qui ont été mis.
Alors, en fait, cet investissement n'a pas été si cher que ça. À l'époque, ça avait surpris.
Rappelez-nous les chiffres.
Un milliard,
c'est ça, oui.
1 milliard pour faire une usine complètement neuve. On a un concurrent qui en a fait une depuis pour 1,6 milliard. Donc, je crois qu'on s'en est bien tiré. Non, c'est absolument fondamental, parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, le marché américain est celui qui a connu la plus forte croissance. En quelques années, c'est-à-dire en un peu plus de 5 ans, la production américaine est passée de 5 millions à 12 millions de barils. Il y a aujourd'hui 7,4 millions de barils jour, c'est-à-dire 7% de la production mondiale, qui est à peu près de 100 millions, qui est produite sur des champs dits non conventionnels, les fameux pétrole de schiste, qui n'existait simplement pas il y a moins de 10 ans. Et notre usine, elle est complètement dédiée à cette production. Encore une fois, il n'y a pas de zone au monde où la croissance de la production a été aussi forte. Et en réalité...
Oui, mais en même temps, on voit maintenant que la production de gaz de schiste, aujourd'hui, vous aviez raison de dire que c'est une explosion, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Il y a beaucoup d'interrogations, justement, sur les gaz de schiste.
Alors,
aux États-Unis, j'entends.
Il faut distinguer gaz et huile de schiste. Hein. Ce qui, aujourd'hui, est très, très porteur, c'est les huiles de schiste, c'est-à-dire de gaz naturellement liquéfié. Là, ça continue à croître.
Oui, c'est d'accord, sur les gaz. Ouais.
Alors, sur les gaz, le problème, il n'est pas tout à fait celui-là. C'est qu'il y a des sites de production de gaz, et puis il y a du gaz qui remonte avec l'huile. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis, techniquement, c'est qu'il y a une surproduction de gaz. C'est pas qu'il n'y en a pas assez, c'est qu'il y en a trop.
Ouais.
Donc d'ailleurs, dans certaines régions, ils continuent à le brûler, ce qui est évidemment assez, assez choquant. Donc progressivement, ils installent des équipements pour capter ce gaz et ensuite l'amener aux usines qui le transforment en gaz liquéfié pour l'exportation. Donc ce qu'il y a actuellement, c'est un ralentissement des forages. Donc là, oui, on a un tassement, précisément parce que la production monte très très fort, et puis parce que les opérateurs cherchent d'abord à rétablir leur rentabilité, et surtout à devenir positifs en cash, ce qu'ils ne sont toujours pas pour beaucoup d'entre eux. Mais il n'y a pas de problème de production. Il y a même plutôt trop de production du côté du gaz.
Donc, pour vous, fin 2019, on va voir un Vallourec revigoré avec des chiffres positifs. Bah,
il l'est déjà.
Vous pourrez
le deuxième.
Clés.
Oui, le deuxième. Alors, je reviens effectivement à votre question. Je pense que je laisse à mon successeur et à l'équipe qui l'accompagne un Vallourec qui est sur de bonnes bases. Maintenant, à eux de faire prospérer ça dans un marché qui est plein d'incertitudes et d'aléas. On peut dire qu'on est servi, mais sur des bases qui sont saines. Et encore une fois, je donne l'exemple de ce très haut contrat qu'on a eu au Moyen-Orient. Je peux dire que ce genre de contrat, qui est historiquement c'est le plus important contrat au monde dans notre métier, il a été très disputé.
Est-ce que c'est Edouard Guinat, comme étant en charge du Moyen-Orient, c'est lui qui l'a signé ? Ce qui fait qu'il a peut-être décroché la timbale.
Ça, c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est le conseil de surveillance, bien sûr. Mmh. Mais c'est, oui, il a été en première ligne pour cette négociation. Oui. Donc il connaît très très bien cette situation et il sait aussi donc très très bien les atouts de Vallourec.
Oui. Le business maintenant, il se fait où pour vous là? Donc vous avez les États-Unis, le Brésil, ou c'est justement au Moyen-Orient?
C'est un bon mix, justement, entre ces trois zones. Ce sont les trois zones principales. Après, un degré moins, mais significatif quand même. On a encore la mer du Nord qui marche très bien pour nous en ce moment. L'Afrique de l'Ouest qui va revenir. L'Afrique de l'Est un peu plus tard. Et on est aussi très actif en Asie du Sud-Est, dont on parle pas souvent, mais où il y a beaucoup de développement et très technique et très valorisé. Mais vous avez raison, les trois principaux marchés pour nous, c'est le Moyen-Orient au sens large, y compris Afrique du Nord, compagnie nationale, donc qui suivent des stratégies très continues. En fait, on a un contraste entre l'Amérique du Nord, où là, il y a des stratégies hyper réactives, c'est en fonction du prix du baril, on fore, on arrête de forer, on se remet à forer, on arrête de forer, et puis ailleurs dans le monde, où les stratégies sont beaucoup plus continues, où toutes les compagnies pétrolières ont maintenant calé leurs objectifs sur $50, donc tant que le baril reste à 50 et au-delà, et on y est, et on va même, probablement, comme j'ai dit tout à l'heure, à cause de la prime de risque, monter un peu plus haut, ils ne changent pas leur stratégie. Donc, on a une base, vraiment, là, qui est très, très solide. Là où ça va monter et descendre, et ça va continuer à fluctuer beaucoup, très volatile, c'est l'Amérique du Nord.
Et en même temps, on voit bien que le parapétrolier, où la France avait des quelques beaux champions, c'est un secteur très, très compliqué. Vous avez suivi, comme moi, mieux que moi, en l'occurrence, les difficultés des uns et des autres, notamment de Technip, encore une fois. Comment vous analysez l'avenir du secteur parapétrolier?
Bah écoutez, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'une de mes fiertés, c'est que nous sommes, Vallourec, avec beaucoup d'efforts et dans la douleur, passer à travers ça, et je lègue aussi, c'est peut-être le plus important, un Vallourec qui, grâce au soutien de deux actionnaires stratégiques, BPI France, donc l'État français, et notre partenaire historique Nippon Steel, qui chacun a 15% du capital, on est passé à travers la crise, et nous sommes toujours Vallourec, société dont le siège est en France, qui est cotée en France et qui est indépendante.
Oui, contrairement à Technip.
On est passé à travers.
Qu'est-ce que vous pensez de la scission de Technip, là, en deux? C'est une bonne idée?
ces deux familles de métiers, c'est vrai qu'ils sont assez différentes. Maintenant, c'est vrai que dans le passé, ils coexistaient dans l'ancien Technip. Mais c'est deux métiers qui sont effectivement assez différents. On est dans des territoires que, et nous fournissons...
C'est des erreurs stratégiques, là aussi, les erreurs stratégiques qui ont été faites, notamment par l'État, en l'occurrence, qui ont accepté le fait que... Mm-hmm. Non ?
Vous savez, il faut se replacer dans le contexte. Enfin, je juge pas la stratégie des autres, parce que j'ai souvent... la mienne fait l'objet de critiques que je trouve pas toujours fondées, donc je me permettrai pas de critiquer la stratégie des autres. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte de la crise que nous avons vécue en 2014-2016. Un effondrement comme on n'avait jamais vu. Les volumes ont chuté de 50%, les prix de 30%. Chacun, face à ça, a mis en œuvre la stratégie qui lui paraissait la plus opportune, et on n'avait pas tous les mêmes opportunités. Moi, je n'ai pas recherché de solution de consolidation. Je n'en voulais pas. Et c'est simplement, si je n'avais pas trouvé une solution alternative qui nous permettait de rester indépendants, peut-être que je l'aurais recherché plus activement. J'ai trouvé une autre solution. Franchement, on a vécu quelques années là qui n'ont pas de précédent, où vraiment le ciel nous est tombé sur la tête, à nous tous dans cette chaîne de valeurs très complexe qu'est celle du pétrole. Voilà, nous en sommes sortis, je pense, honorablement, avec beaucoup de douleur, mais aussi beaucoup de travail, beaucoup d'efforts de tout le monde.
Est-ce qu'à terme sera peut-être la fin, la conclusion de notre entretien, Philippe Crouzet? Est-ce qu'à terme, on peut s'interroger sur le fait que Vallourec reste un groupe indépendant? Est-ce que la suite logique ne serait pas justement l'intégration dans une major pétrolière?
Alors, c'est une question qui
est récurrente. Du reste, je l'avais posée Patrick Pouyanné chez Total.
Oui, oui. À la fois, vous avez raison. Enfin, il existe des conglomérats qui rassemblent un certain nombre d'activités qui servent un même secteur. En même temps, je dois noter deux choses. La première, c'est que, en général, les marchés financiers n'aiment pas tellement les conglomérats. Ils préfèrent les pure play. Nous sommes un pure play. Voilà, nous, il n'y a rien à découper. On ne fait qu'un seul métier. On essaie de bien le faire. On ne se disperse pas. Il y a un atout à être un pure play, y compris vu par les marchés financiers. Et puis, le deuxième commentaire que je ferai, c'est que pour intégrer des structures plus grandes, il faut être sûr qu'il n'y a pas de problème de concurrence. Et aujourd'hui, c'est souvent un obstacle important à des regroupements qui, par ailleurs, peuvent paraître naturels pour générer des synergies. Ce que je peux simplement dire, c'est que dans notre cas, on ne nous a jamais proposé un plan de cette nature-là qui soit convaincant.
Et vous l'auriez accepté ?
Bah, s'il avait été convaincant, on l'aurait examiné. C'était notre devoir.
Ça sera peut-être votre successeur, justement. Merci beaucoup, Philippe Crouzet, d'avoir été avec nous. Donc, le président du directeur de Vallourec, qui s'apprête donc à passer la main. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve demain à 8h15. Et puis, bien sûr, dans l'orage, 12h, 13h. Bonne journée.